Vous êtes toujours sur le plateau commun, béton, Active et Radio Campus. C'est le festival Désir Désir qui a commencé hier, qui se continue jusqu'au 25 janvier. C'est le dernier entretien de l'émission. Nous sommes en présence d'Isidro et de Samantha. Bonsoir.
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 Vous êtes deux des protagonistes du film, du documentaire, pardon, de Klaus Drexel. Le documentaire Au cœur du bois. C'est un film qui place l'équipe du film a placé sa caméra dans le bois de Boulogne. Voilà, c'est. Attendez, je retrouve mes notes juste. Je suis très bien organisée. Il m'a coupé la.
C'est ce que je vois.
L'herbe sous le pied. Non, non,
il nous. Il faut dire que c'est un documentaire percutant et c'est l'une des raisons pour lesquelles.
Tu as dit
pour
perturbant.
L'équipe du festival a choisi de le diffuser. On a tous été de façon unanime face à ce documentaire. À son honnêteté, à sa richesse. Et vous savez bien, hein, Désir Désir, nous, on aime donner la parole aux minorités. Là, on a une parole vraie d'une minorité qu'on cache.
Avec alors des qu'elle minorités est au... dans les minorités.
Voilà, exactement. Alors qu'elle est au service de tout le monde.
Qu'elle est présente.
Est présente, voilà. Elle existe et elle doit avoir la parole. Donc,
c'est cela.
Exactement. Voilà.
Alors, il est très étonnant ce documentaire parce que c'est un dispositif très simple. C'est, la caméra est posée en face des travailleurs du sexe, travailleurs et travailleuses du sexe du bois de Boulogne. Généralement, ils sont assis sur une chaise ou de plein pied. Il n'y a pas de découpage des corps comme on peut voir dans les reportages. Et les personnes parlent de leur parcours. Klaus leur pose une question de temps en temps.
Exactement.
Voilà. Et du coup, on demande comment en sont-ils ou elles arrivées là, quels sont les risques, y compris. On parle aussi de la loi. Quelle est la part éventuelle du choix, quelle est la vie en dehors du bois, mais le bois est toujours là, on est dans cette espèce de décor un peu de conte, le film, le documentaire est comparé un peu à un conte. Alors il y a beaucoup d'imaginaires, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il y a tout un imaginaire qui se construit, le conte, le bois, le conte, le grand méchant loup, les enfants s'y font dévorer ou sortent grandis après des épreuves incommensurables. C'est aussi un lieu de rébellion, c'est le maquis, le bois, il y a Robin des Bois dans les bois aussi.
On se fait dévorer, voilà. Comme vous dites.
Il y a tout cet imaginaire.
Tous les jours, on se fait dévorer tous les jours.
Voilà, donc il y a cet imaginaire, et en même temps, il y a cette parole qui est complètement vraie, qui vient casser tous les préjugés qu'on peut avoir et qui construisent notre imaginaire aussi. Voilà, et moi, la première question que je voulais vous poser, c'était comment est-ce que vous avez rencontré Klaus Drexel ? Comment le projet s'est monté, en fait ? Avec vous?
Ben, j'ai rencontré Klaus dans une association qui s'appelle OPAST, qui est une association de trans. Et il m'a proposé si je voulais participer dans son documentaire. Alors, il a été très, très sincère avec moi. J'ai dit oui. Voilà, je me suis traîné là-dedans. Mm-hmm. J'ai traîné des nuits dans le bois avec lui, avec son équipe. Puis je me suis déguisé, je me change, j'ai mis la perruque, je me maquille. Il m'a donné la parole libre et j'ai raconté. Ben, il faut voir le film, voilà.
Il faut voir
à tous les gens de Tours, courez vite.
C'est ce soir et d'ailleurs à
19h45. C'est ce soir.
Tout de suite, maintenant. Oui, et Samantha, peut-être que vous.
Alors moi, je l'ai rencontré. Il m'a été présenté par Françoise, l'ancienne présidente du Bus des Femmes. Okay. Et il est venu nous faire une diffusion, une projection d'un de ses films, mm-hmm. qui s'appelait America. Et quand j'ai vu l'image, que j'ai vu la liberté qu'il laissait aux acteurs ou aux intervenants de, mm-hmm. de témoigner et de vider leur sac, mm-hmm. je me suis dit, mais c'est ce qu'il faut, quoi. Mm-hmm. C'est ce qu'il faut. La liberté de pouvoir témoigner, pas de coupure, ou on balance quelque chose, mm-hmm. mais on sait très bien que ça va être diffusé parce que ce sont des paroles fortes. Mm-hmm. Donc Klaus a cette magie-là entre les mains, c'est que. Quand il a un projet, il l'a en tête, mais il ne reste pas que dans sa tête. Il le fait, il l'exécute, mmh. il le réalise, quoi. Et comme ils font un très bon binôme avec Sylvain Lézère, qui s'occupe des images, qui a l'image, qui a mmh. un truc... avec ces images
très,
qui sont
très belles,
merveilleuses ouais. et que c'est vraiment féerique, quoi. Mmh. Et ben, à eux deux, avec leurs deux cerveaux,
vision,
ils arrivent à vous faire des choses de dingue. Donc c'est vraiment une collaboration magnifique, sans oublier aussi Florent Lacaze, qui est merveilleux, qui leur a laissé les pleins pouvoirs, qui les a produits, mmh. et qui est génial, quoi. C'est un mec, il est venu, il nous a même accompagnés dans le bois, tout ça, pour faire un peu le chauffeur, il portait le matériel, producteur quand même. Hein.
Ah oui.
Et là, on se dit, mais tout le monde met la main à la pâte, puis c'est un travail d'équipe. Mm-hmm. Et c'était génial, vraiment génial.
Très bien. Vous avez mentionné le PAST et le Bus des Femmes. Il faut peut-être préciser ce que c'est.
Le PAST, c'est une association qui aide les gens dans l'administration. Tous les gens qui sont trans.
Les trans,
voilà, okay, oui. qui sont en difficulté. C'est une association qui est... L'État aide l'association.
Oui, financée par l'État, oui.
Voilà.
Et le Bus des Femmes,
Le Bus des Femmes, c'est une association aussi qui a été créée pour les prostituées, par les prostituées. On s'occupe aussi de tout ce qui est administratif. Il y a des domiciliations.
Sur Paris.
Sur Paris, dans le 20e. Dans le 20e, oui. Et c'est à Père-Lachaise. Et c'est une association super parce que c'est pas forcément une association, c'est aussi une petite famille. Donc on reçoit les personnes en situation de prostitution, on les aide, on les oriente. Celles qui veulent l'arrêter, ben on essaie de leur trouver des formations, on les aide, on les guide et on les oriente vraiment. Quoi.
C'est de la prévention, de l'orientation, de l'accompagnement.
On fait de la prévention, on fait du terrain, il y a des maraudes, il y a tout. Mm-hmm. Et il y a le local où on les reçoit aussi.
Okay. Très bien. Et du coup, comment donc la mise en scène, vous en avez parlé, c'est très un travail d'équipe, très très fort. Au niveau du fond, est-ce qu'il y a des sujets parce que ça aborde tellement de sujets ce film là, la transidentité, l'immigration, la politique liée au travail,
l'enfance, le vécu, oui, voilà, il y a beaucoup de témoignages très forts. Hein. Film documentaire dans lequel on passe par toutes les émotions. Mm-hmm. On peut aussi bien rire que pleurer, que frémir parce que on entend des choses qui sont arrivées à des intervenants qui sont très dures. Et je pense qu'on passe par toutes les émotions. Mm-hmm. Et c'est pour ça que ça convient à tout le public. Peut-être pas trop jeune non plus, qu'ils ne comprennent pas non plus. Mais bon, il ne faut pas dire, pourquoi au moins de 16 ans, n'y allez pas. Quoi.
Ah non,
justement, c'est au début de l'adolescence, il faut comprendre.
Un collégien, je pense qu'il
peut très bien voir ce film. Totalement. Apprendre des choses.
Il faut aller se promener au bois un week-end, vous allez voir le monde qu'il y a.
Ouais.
C'est fou.
Oui, il n'y a pas...
Il y a des gens qui sont mariés, il y a des gens qui sont connus, il y a des gens de la télé... J'ai connu.
C'est du public là aussi.
J'ai dû parler, non, mais quelques gens sont morts déjà.
Bien sûr.
Oui, on parle des assassinats.
On en parle pas assez parce qu'il y a plus que ce qu'on
annonce. Moi aussi, j'étais surprise.
Je peux vous dire qu'on en a vu mourir tous les deux depuis.
Oui, c'est mentionné,
des
mais
années,
c'est vrai que peut-être.
Il suffit juste qu'il y ait une diffusion ou qu'on en parle ou que ce soit vu ou que ce soit trop médiatisé pour qu'on en parle réellement. Mmh. Autrement, on est dans les rubriques des chiens écrasés, quoi. Les limites, hein.
Ouais.
On parle plus des chiens écrasés que nous. Donc...
C'est, je crois, une des richesses du réalisateur, hein, de Klaus, d'avoir utilisé cette mise en scène si sobre.
Exactement.
Pour faire ressortir des vies si riches. Mmh. Vous l'avez dit, tous les parcours des protagonistes sont différents. Widerot, évoquait, toi, la façon que tu as de travailler avec... Tes costumes, tes perruques, etc. D'autres sont beaucoup plus naturels. En revanche,
Chacun a un rapport à son corps ou à l'autre qui est totalement différent.
Il faut voir le film ouais. pour entrer dedans.
Il y a des parcours complètement différents. Enfin, des personnes qui sont venues par choix, par engagement et
moi,
d'autres.
Ça a toujours été ça.
Je
ne l'ai pas subi la prostitution. Je ne l'ai subi toujours
pas.
Oui,
parce qu'il y a ce cliché de la personne.
Jusqu'à mardi soir, j'étais encore au bois. Mm-hmm. Je ne subis pas ma profession parce que pour moi, c'est une profession, c'est une qualité. C'est une profession.
Oui, il y a plusieurs prises de parole.
Il faut savoir le faire et ça devrait être reconnu. Ça devrait être. Reconnu vraiment par toutes les institutions.
Par les
c'est
politiques.
Nécessaire, la prostitution est nécessaire et indispensable.
Il y a tout un passage aussi sur le rapport aux politiques et un historique de la prostitution en France qui est très intéressant.
Le politique, vous savez,
il couche
avec nous, il va être contre nous, comme on dit dans les slogans des manifestations.
La description des clients, ça dénonce une hypocrisie totale de la société française ou parisienne, en tout cas, qui est...
Et puis c'est bon.
Dans
le plaisir.
On rencontre des gens, je pense, en fait. Et c'est ça qui change.
On fait
tout,
de belles rencontres. Au bois, les gens se disent oui, c'est un client, c'est une passe, c'est vite fait, c'est à l'arrache. Non, moi j'ai fait de belles rencontres de personnes que j'ai pas forcément suivies en client, qui sont restées des proches à moi. Je peux parler, je peux discuter. On va au restaurant. Ils me parlent de leurs vacances. Ce sont devenus des relations amicales, vraiment.
Mais là même, dans le film, en tant que spectateur ou spectatrice, on rencontre toutes ces personnes très différentes.
Bien sûr.
On ne rencontre pas des putes, on rencontre des gens qui ont des parcours mais complètement bien sûr. Différents.
Des et êtres humains.
On n'est pas
êtres
plombé
humains
à la
comme...
fin du film. On n'est pas non plus.
Pas du tout.
Il y a plein de problèmes à régler.
Mais bien sûr.
C'est, bah, c'est oui, un c'est film ça. Très complet. Et
exactement.
J'ai trouvé magnifique.
Exactement.
Merci. Et c'est pas du tout une question que je vous pose. Oh, non, je voulais savoir si vous aviez eu des retours, du coup, parce que vous accompagnez
alors,
ce film depuis un moment.
On a eu des retours très positifs par toutes les personnes qui sont passées le voir, ou des professionnels du cinéma, ou qui sont allés le voir, le visionner, et qui ont eu des... Pour moi, franchement, il n'y a que du positif. Seulement, ça n'a pas été assez vu suffisamment, parce que bah, quand il y a plein de sorties en même temps dans les salles, vous mettez les tuches ou... Ben
oui,
voilà, ça passe en second
problème.
Plan. Toujours les tuches.
Il y avait le contexte.
Mais
allez
voir au cœur du bois. Allez voir au cœur du bois. Vous allez apprendre des choses parce que certaines personnes sont restées sur des candidatons ou des choses déjà prémontées. Mais allez voir au cœur du bois et vous allez découvrir la prostitution et le bois de Boulogne sous un autre angle et sous une autre image.
Complètement. Alors, alors, je pense que. Vas-y, Anthony, si tu as.
Si, oui, si je puis me permettre, effectivement, je rebondis en disant à notre public qui nous écoute qu'effectivement, on découvre en fait des vraies personnalités, des vrais gens qui ont une vie derrière ce travail. Et ma question, ce serait sur la partie intime de votre vie à vous. Le documentaire, il aborde aussi cette question de votre vie personnelle.
Dans l'intime, moi je suis célibataire, je n'ai pas de compromis. Hein? Alors, pour répondre à ma vie sexuelle, je me lance dans le bois. Voilà. Je n'ai pas de rendre compte à personne, je suis libre.
Et moi, j'ai une vie sexuelle totalement épanouie, en dehors du bois même, et je n'attends pas d'avoir du sexe uniquement par les clients. Rémunéré, bien sûr, mais j'ai des sex friends, je suis parent, j'ai un fils de 25 ans, j'ai 3 petits chiens, j'ai une vie, mais somme toute, normale, classique, hein. En dehors du bois, quand je vais chez moi, je connais tous mes commerçants, tous mes voisins, je suis vraiment investi dans mon quartier, je suis reconnu, respecté, comme tout à chacun, il n'y a pas de question de bois ou image du bois que je traîne à la maison. Non, les gens, ils me disent, ouais, Samantha, ça va. On me parle comme quelqu'un de normal. Donc,
mais
je suis totalement intégré.
T'as parlé du je tutoie, excuse-moi.
Ah, bah, tu peux.
Comme on discute.
Si tu me vois, je pourrais être ta grand-mère. Non, comme
pas. Non, quand même pas.
Bon, ta mère. Ou ton père.
Comme tu veux.
D'accord.
Tu parlais du bus des femmes,
ouais.
du past. Il y a une communauté quand même qui est très soudée ou... Parce que bah, c'est vrai que c'est filmé comme si vous étiez des individus
moi, j'ai
très séparés.
J'ai connu la prostitution fin des années 80. J'ai commencé la prostitution en 89. J'avais 14 ans. Et il y avait une solidarité, c'était énorme. Ce n'était pas forcément communauté ou origine par origine. Tu vois. Et dans les années 90, il y avait encore cette solidarité. Au début des années 2000, quand il y a eu la loi de racolage, tout ça,
oui,
et puis il y a eu un peu des guerres de territoire, de secteur dans le bois de Boulogne, et ben, il y a eu un peu de séparation de corps, et les filles ben, étaient plus,
isolées,
plus
en
octroyées
fait.
Sur elles-mêmes, s'en foutaient des autres. Tu pouvais crier « au secours, à l'aide » ou « todas ». Bah, l'autre elle disait oh putain une de moins c'est bon ça en fera des clients en plus parce que tellement bah, on bosse
c'est pas le même esprit
bah oui mais non je pense qu'avec ce truc là de pénalisation des clients et ben bah, la solidarité est un peu plus revenue parce qu'on se rend compte que bah maintenant on se met main dans la main toutes les transactions
il y a des droits à gagner en fait
pour justement lutter militer contre ça parce que ça suffit faut arrêter on peut pas dire balancer une loi de pénalisation des clients dire c'est pour votre bien et pas se rendre compte qu'il n'est pas derrière, mais on crève la dalle, quoi. On crève la dalle, concrètement.
Puis ça crée encore plus de précarité.
J'y suis les mardis soirs pour faire 4 heures et faire 40 balles.
Alors, le documentaire, justement, il est.
Je
serais aussi...
déménage, je serais mieux payé.
Il est aussi très complet sur ça, justement, c'est qu'il aborde vraiment un panel de questions, notamment la question du politique, des pénalisations, et des conséquences que ça a sur celles et ceux qui sont au bois.
La nouvelle loi qu'ils ont fait contre le client, ça aggrave la précarité.
Exactement.
Voilà. C'est ça. C'est une loi bête, quoi.
Et ils n'ont pas pensé aux retombées, quoi.
J'aurais préféré que la police me donne des PV à moi que pénaliser les clients. Parce que le client qui est pénalisé, il y a beaucoup de gens qui sont mariés qui vont nous voir.
Ils ne reviendront plus.
Qu'ils n'ont pas. Qu'ils cherchent ou qu'ils en ont pas à la maison, hein, ils vont en secret au bois. Mais si le mec se fait attraper par les flics, imaginez les problèmes dans la famille.
J'ai une question peut-être un peu clivante justement sur ça. Quel est votre regard sur un retour possible ou pas des maisons closes? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait...
Moi, je suis pour.
Moi, je suis totalement contre. Parce qu'à partir du moment où la prostitution n'est pas reconnue, ou pourquoi aller dans les maisons closes où l'État va prendre une certaine partie, un pourcentage? Moi, quand je suis au bois, je ne donne pas d'argent à l'État. Parce que je sais très bien que je n'aurai pas de retraite. Si on va dans une maison close, qu'on donne 10 ou 15% de ce qu'on gagne, l'État sera proxénète. Bon, l'État l'est déjà quand même proxénète. Hein, parce que les filles de la rue Saint-Denis, elles payent des impôts depuis en tant que profession libérale. Mais pourquoi des maisons closes où on va être surveillé? On est déjà assez fliqué comme ça avec les smartphones. Je ne comprendrais pas des maisons closes comme ça. Si moi, mon statut n'est pas reconnu, je veux bien payer 10 ou 15%. Si après j'ai une retraite, j'ai la reconnaissance, ok, mais on ne l'a pas pour le moment. Et ce n'est même pas encore à l'état de projet.
Isidro, un avis moins tranché du coup sur cette question-là, différent?
Moi je suis pour, parce que, question sanitaire, dans la maison close, on est contrôlé, on a plus d'hygiène. Au bois, c'est sauvage.
Et peut-être que le statut dont tu parles, Samantha, le fait d'être connu... peut être, est-ce que j'ai que, enfin j'ai pas,
oui, c'est ça, peut être
tranché
un...
moi je sais pas, je...
Ben moi si on
ça pourrait pas être compatible,
mais si on cotise, si on est reconnu, que la profession est reconnue, voilà. Et que on nous dit oui, les maisons closes, ok, mais il faut avant reconnaître le statut avant de penser aux maisons closes. C'est ça,
je trouverais ça bizarre qu'il y ait une maison close sans que le statut soit reconnu, en fait.
C'est pour ça que le premier pas, c'est vraiment d'être reconnu, qu'on cotise, ok, certes, mais que notre statut soit reconnu et que les filles qui ont tapiné pendant 40 ans dans la rue de Saint-Denis et une retraite, parce que ça, c'est pas possible. J'ai des amis, moi, qui ont payé 40 ans d'impôts, qui payent leur mutuelle, qui payent tout, qui sont déclarés en tant que profession libérale, auto-entrepreneuse. La retraite, c'est celles qui se la font. Et 40 ans d'impôts payés. Ah non.
Anthony, t'avais un truc à dire. Je t'ai vu. Ben je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose.
Venez voir le film.
Courez, vite.
C'est tout à l'heure à 19h45.
En partenariat avec le CNP, qui est notre partenaire aussi historique, la soirée du jeudi. On les remercie d'ailleurs pour cette programmation avec nous.
Le centre LGBT.
Je lance l'appel à tous les éditeurs qui nous écoutent. Courez vite. C'est 19h45.
Isidro et Samantha seront là ce soir pour échanger avec vous.
Pour les questions-réponses, exactement.
Voilà. Eh bien, merci beaucoup.
Merci
Isidro
beaucoup
et
à vous de nous avoir accueillis. Merci à
tous. Et merci au Tourangeau.
On enchaîne avec Anthony et Audrey.
Voilà, donc on termine l'émission. Du coup, vous pouvez rester avec nous. On n'en a pas pour très longtemps. Juste, on fait le mot de la fin avec Anthony. Du coup, peut-être rapidement, les rendez-vous à ne pas manquer. Alors, il y a beaucoup de choses, mais peut-être pour les gens qui écoutent dans les prochains jours.
J'en ai évoqué trois en début d'émission. Ouais. Peut-être rappeler notre partenariat aussi avec le BCAT le dimanche matin. Rappeler également qu'on a un magnifique film italien, Piccolo Corpo, le dimanche. Notre partenariat avec la Cinémathèque le lundi soir également. Je voudrais aussi avoir une pensée pour ces films de deuxième partie de soirée qui parfois remplissent pas trop la salle alors qu'ils sont superbes cette année. Il y a Queendom le mardi pour le dernier film de clôture et Los Fuertes vendredi. Et puis bien évidemment, il y a la soirée de clôture le mardi soir. Voilà, Great Freedom. Et puis il y a nos partenaires après, Le Temps Machine, La Pléiade à la Riche, qu'on remercie encore et qui permettent de prolonger la fête jusqu'au 11 février. Voilà. Et merci à vous, les radios et l'équipe de la bibliothèque de nous recevoir chaleureusement.
Alors, il y aura peut-être juste un petit mot, parce que l'année prochaine sera la 30e édition. Là, c'est la 29e, et du coup, la 30e, on sera là, bien entendu. Mais un mot, alors, ça sera peut-être une édition un peu plus
spectaculaire. Une édition anniversaire, une édition joyeuse, festive, une édition qu'on prépare déjà. Je vois Mickaël, là, depuis plus d'un an, on la pense, on la réfléchit, on remue dans les brancards. On espère avoir plein de nombreux partenariats et des partenariats différents, enfin des nouveaux partenaires. Voilà, donc on travaille déjà dessus. Mais ce sera joyeux et festif, c'est ce qu'il faut retenir.
Eh bien, merci beaucoup. Merci Anthony, merci à David Marion qui était à la technique, à Mélissa de Radio Campus, à Chloé de Radio Béton, à Jérôme de Radio Active.
À Arnaud
qui nous écoute,
qui nous entend.
Qui n'est pas
sous la couette.
Sous la couette, voilà. Eh bien, on se retrouve l'année prochaine pour la 30e édition.
Avec plaisir.
Très bonne soirée sur Radioactive, Radio Béton et Radio Campus. À bientôt.